franceinter.fr.
Après sa défaite au départemental, le PS tente de rassembler la gauche pour résister à l'UMP et au FN. C'est en projet au gouvernement un nouveau contrat qui pourrait permettre aux petites entreprises de licencier plus facilement. Sanctionner les prostituées ou leurs clients, le débat a démarré aujourd'hui au Sénat. Et puis la grève reconduite demain à Radio France. Nous ferons le point avec Sandy Dauphin.
France Inter.
Les travaux pratiques pour la gauche au lendemain de cette nouvelle claque électorale. Les travaux pratiques autour du rassemblement. Le Parti Socialiste doit en effet s'y atteler en vue des régionales et de la présidentielle de 2017. Obligé de recoller les morceaux avec la majorité des frondeurs aux écologistes. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, annonce que le dialogue sera renoué avec Europe Écologie Les Verts. Un reportage signé Marion Lagardère.
Une fois les écologistes partis, Jean-Christophe Cambadélis s'est installé devant les caméras, tout sourire et pas peu fier d'annoncer la reprise des relations diplomatiques.
Le dialogue est renoué entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Je leur ai indiqué qu'il me semblait invraisemblable que le Parti Socialiste, les écologistes, voire le Front de Gauche, ne soient pas associés là où le Front National pouvait l'emporter dans les élections régionales du Nord, Pas-de-Calais-Picardie ou de la région PACA.
Pour le PS, la priorité, c'est donc l'union pour les élections régionales. Mais pour la verte, Emmanuel Cosse, l'union électorale n'est que la dernière strate d'un consensus global sur le fond. La secrétaire nationale d'Europe Écologie veut avant tout un projet et des actes.
Nous avons parlé de qu'est-ce qui doit être au cœur d'un nouvel acte du quinquennat de François Hollande. Si le rassemblement, il doit y avoir un moment, ce rassemblement, il doit se faire sur un projet.
Elle ajoute que dans le même état d'esprit, d'autres réunions de ce type auront lieu entre le PS et les Verts. Un processus que Jean-Christophe Cambadélis aimerait reproduire avec d'autres formations politiques. Il devrait recevoir son seul allié gouvernemental, le Parti radical, dans la semaine. En revanche, au Parti communiste, Pierre Laurent confirme ne pas avoir de rendez-vous prévu rue de Solferino cette semaine. Jean-Luc Mélenchon pour le Parti de gauche non plus. Mais c'est peut-être, explique son bras droit Alexis Corbière, parce que les socialistes connaissent notre réponse négative. Rue de Solferino au siège du PS, Marion Lagardère, France Inter.
Au lendemain de la large victoire de l'UMP alliée à l'UDI, Nicolas Sarkozy voit sa position renforcée avant la primaire pour 2017, même si ses principaux rivaux restent déterminés à lui barrer la route. Ainsi, le maire UMP de Bordeaux, Alain Juppé, qui n'a pas réussi à faire basculer la Gironde à droite, assure qu'il ira jusqu'au bout de ses objectifs. « Je continue, dit-il, à tracer ma route. Je reste sur ma ligne, apaisé, rassemblé, réformé », affirmé le candidat déclaré à la primaire d'investiture du candidat de la droite pour 2017. En attendant, cette droite savoure sa victoire. L'UMP réunissait ses troupes cet après-midi pour se pencher sur le troisième tour de jeudi, à savoir l'élection des présidents des conseils départementaux. Car trois départements pourraient poser problème à l'UMP, l'Aisne, le Vaucluse et le Gard. À chaque fois, le FN compte une poignée de conseillers départementaux, mais ni la droite ni la gauche n'est majoritaire. Donc comment faire pour élire le président du département? Pour Éric Ciotti, député UMP et président du Conseil général des Alpes-Maritimes, la règle est claire, il n'y aura aucune alliance ni avec les socialistes, ni avec les frontistes.
Il n'y aura pas d'alliance avec le Front National, il n'y aura pas d'alliance de gouvernance, il n'y aura pas d'alliance stratégique sur une volonté de se rapprocher pour gouverner un département. Aucune alliance, nulle part, jamais, nous l'avons dit. Et nous verrons bien qui sera élu président. Mais vous savez, une assemblée départementale, ce n'est pas forcément une assemblée traversée par des débats politiciens. Je suis président du Conseil général. 95% des délibérations que j'ai présentées ont été adoptées à l'unanimité. Donc sur des sujets d'intérêt local, je pense qu'il veut y avoir des majorités de projets qui rendent tout à fait gérable un département. Laissons installer les exécutifs, nous verrons bien qui les dirige et je suis confiant dans leur capacité à trouver, sans le Front National, jamais des majorités de projets.
Propos recueillis par Karine Bécard et puis désavoué ce matin lors d'un vote par l'UMP qui présentera un autre candidat à la présidence de l'Essonne. Georges Tron, mis en examen dans une affaire de viol, annonce qu'il briguera malgré tout la tête du département. Une loi Macron 2 dans les tuyaux. Le ministre de l'économie annonce une nouvelle loi pour l'été afin d'accélérer la reprise économique qui est en cours. Il veut des mesures de simplification pour les PME et les TPE, les très petites entreprises. Et le journal Les Échos croit savoir qu'il y aurait une mesure pour licencier simplement, plus simplement, le salarié si les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Véronique Julia.
L'idée émane du patronat, elle a été clairement rédigée en fin de semaine dernière par le MEDEF dans un document transmis aux organisations syndicales. Pour lever les freins à l'embauche, le MEDEF propose en fait une voie médiane entre CDD et CDI. Il s'agirait d'un contrat de travail, un CDI, dans lequel seraient insérés dès le départ des motifs incontestables de rupture. En clair, si l'entreprise perd subitement un marché important ou si la conjoncture se retourne brutalement, le CDI prendra fin sans que l'employé ne puisse se retourner vers les prud'hommes pour contester. Un projet d'ores et déjà qualifié de scandaleux par Stéphane Lardy pour Force Ouvrière.
Ce qu'il y a de purement scandaleux, c'est qu'on fait porter le risque de l'entreprise sur le salarié. C'est ça le résultat. Donc nous, on pose la question de l'emploi à quel prix hein. Je crois que c'est aussi ça le débat qu'on doit avoir au niveau politique.
Même son de cloche du côté de la CFDT, sa représentante Véronique Descac estime que les entreprises ont déjà eu des baisses de charges pour encourager les embauches.
On a restitué des moyens aux entreprises qui en réclamaient pour avoir des marges, pour innover, pour investir. Elles n'innovent pas, elles n'investissent pas. Et en même temps, elles continuent à réclamer toujours plus. Toujours plus. Et aujourd'hui, le toujours plus, c'est plus de flexibilité, plus de précarisation pour les salariés, et en particulier pour les salariés des petites entreprises. Pour la CFDT, c'est hors de question. Des salariés dans les petites entreprises ne doivent pas avoir de petits droits.
L'idée pourtant fait son chemin. Il y a quelques jours, François Hollande avait admis dans Le Parisien que pour créer des emplois dans un contexte de reprise morose, il fallait donner, je cite, aux entreprises plus de facilité et plus de souplesse.
Véronique Julia, vous couchez avec nous, vous votez contre nous. Des prostituées ont interpellé cet après-midi les sénateurs. Ils ont commencé l'examen en première lecture de la proposition de loi pour renforcer la lutte contre la prostitution. Cette proposition de loi prévoyait au départ d'abroger le délit de racolage instauré par Nicolas Sarkozy en 2003 et d'instaurer en contrepartie la pénalisation des clients, comme cela se fait en Suède par exemple. Mais la commission spéciale du Sénat a bouleversé la donne la semaine dernière. Elle a réintégré le délit de racolage, pourtant décrié par les associations sur le terrain, et a rejeté toute sanction des clients. Écoutez la position de Jean-Pierre Vial, sénateur UMP, il est interrogé par Laetitia Saavedra.
C'est sur la mesure dite phare que nous nous opposons. La pénalisation du client. Madame le ministre, comment pouvez-vous imaginer qu'une contravention de cinquième classe aura un effet déstabilisateur dans un dispositif de prostitution ? La Cour européenne des droits de l'homme a, dans un arrêt, précisé très clairement : chacun est maître de disposer de son corps pourvu qu'il soit adulte, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à condition qu'il n'y ait pas de contraintes. Ça veut dire que le dispositif que l'on nous propose est, sur le plan du droit, tout à fait contraire à la jurisprudence de la Cour d'appel, et c'est la raison pour laquelle la Commission présentera effectivement le texte sur le rétablissement du délit de racolage, dans un souci d'efficacité sur laquelle, j'espère, le Sénat donnera son soutien contre le proxénétisme.
La grève à Radio France, elle s'enlise. Elle sera reconduite demain encore pour le 13e jour consécutif. Les négociations entre syndicats et direction sont dans l'impasse. La direction estime que le mouvement s'essouffle. Mais selon elle, il faut réformer Radio France. Le statu quo n'est plus possible, affirme Catherine Suer, la numéro 2 du groupe. La semaine dernière, le PDG Mathieu Gallet a annoncé aux salariés un possible plan de départ volontaire pour 200 à 300 salariés, plutôt seniors, afin d'économiser 17 à 24 millions d'euros en masse salariale. Les grévistes réclame notamment de conserver les deux orchestres de Radio France en Dauphin.
Oui, vous l'entendez, c'est leur façon à eux de protester. Un concert improvisé ce midi par les musiciens dans les couloirs de Radio France. Ils redoutent deux scénarios, l'externalisation de l'un des deux orchestres ou bien une fusion. Marc-Olivier Donat est violoniste à l'Orchestre National de France, attaché au service pédagogique.
Il y a la place pour deux formations. On n'a jamais eu autant besoin dans les banlieues, mais pas que dans les banlieues, de développer des actions culturelles, musicales et autres. Mais on en a besoin. C'est après ce qui s'est passé en janvier, c'est lutter contre l'obscurantisme. On sait que la culture, l'éducation doivent être les priorités.
Radio France n'a pas les moyens de financer deux orchestres symphoniques, un chœur et une maîtrise. Voilà ce qu'a dit le PDG Mathieu Gallet devant les salariés. 60 millions d'euros de coûts pour 2 millions de recettes en billetterie. Benoît Gaspard, représentant du syndicat Sud, dénonce une présentation purement comptable.
Il est impossible aujourd'hui qu'il y ait un orchestre qui sorte ou qu'on perde l'identité des deux orchestres en les fusionnant en un seul. Derrière, on est prêt à voir le fonctionnement des orchestres et à voir ce que la direction entend faire comme économie et comment elle compte partager l'effort sur l'ensemble de l'entreprise.
Nous avons sollicité la direction de Radio France. Elle ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne pendant la grève, mais elle répète qu'elle veut éviter tout départ contraint, sans plus de précision.
Et puis les journalistes demandent au gouvernement d'assumer ses responsabilités envers le groupe en lui fournissant des moyens dignes de ce nom. La Société des journalistes, la SDJ, estime que l'État porte une responsabilité particulière dans la situation financière de Radio France.
Intersoir, Laurence Thomas.
6 jours après le crash de l'A320, les enquêteurs allemands révèlent que le copilote Andreas Lubitz avait suivi dans le passé un traitement pour des tendances suicidaires. L'Allemagne s'interroge désormais sur un assouplissement du secret médical pour les métiers dits à risque. Après ces nouvelles révélations sur l'état de santé de cet homme, sur les lieux du crash dans les Alpes, les enquêteurs tentent toujours de localiser la deuxième boîte noire contenant les données du vol. Et pour la première fois, les équipes de recherche et d'enquête ont pu accéder par voie terrestre au site de la catastrophe, un sentier est en cours d'élargissement. L'actualité judiciaire est le procès d'un buraliste jugé pour le meurtre d'un cambrioleur de 17 ans. Les faits remontent à décembre 2009. Luc Fournier, âgé de 58 ans, plaide la légitime défense. Il voulait faire peur aux voleurs. Compte rendu d'audience à Albi de Jean-Philippe Dogneau.
Luc Fournier est un gars bien, un grand calme, amoureux de la nature, jamais violent. Dans son bar, on discute de l'actualité sans aucune idéologie, commente un gendarme. C'était un bar sans souci. On y vient se raconter des blagounettes. Bref, Fournier est quelqu'un de normal, qui a eu peur, conclut-il. Mais l'image du bon cachetier un peu dépassé par les événements n'est pas si limpide. La sœur de Luc Fournier, un sacré caractère, va en convenir. La famille s'était préparée à recevoir les cambrioleurs. On croyait que c'était une bande, un commando qui allait faire ça, explique-t-elle. Tout ça parce qu'un mois plus tôt, des gens de l'Est avait envahi son café. Il y avait 5 hommes et 3 femmes, raconte-t-elle. Ça parlait, ça gesticulait. J'étais dépassé. Alors, un mois après, quand les fourniers repèrent les préparatifs d'un cambriolage, ils prennent peur. Ils arment un fusil, ils installent un dispositif qui donne l'alarme, ils descendent à la rencontre des cambrioleurs et Luc Fournier tire sans sommation. « Pourquoi être allé à leur rencontre ?» demande un juré. « Vous croyez qu'on raisonne dans ces moments-là ?» répond la patronne du Saint-Roch. « Et dire qu'il leur aurait suffi d'allumer la lumière pour les faire fuir, » soupire le gendarme. Albi, Jean-Philippe Dogneau, France Inter.
À l'étranger, au Yémen, au 5e jour de la campagne militaire menée par l'Arabie Saoudite contre des rebelles chiites soutenus par l'Iran, des dizaines de civils ont été tués dans un raid aérien sur un camp de déplacés. Et puis aux États-Unis, le siège de la NSA, l'agence de renseignement américaine, a été attaqué aujourd'hui à la voiture Bélier. L'armée américaine confirme le bilan. 1 mort, 1 blessé grave. Il s'agit des assaillants. Il ne s'agit pas, a priori, selon le FBI, d'un acte terroriste. Il aura 72 ans en avril. Joyeux anniversaire, Monsieur Dutronc. C'est le titre d'un album réalisé pour l'occasion, à l'occasion de cet anniversaire. Un album signé, entre autres, Julien Doré, Joe Starr ou encore Annie Cordy. Un album cadeau dans lequel de nombreux chanteurs et chanteuses ont repris ses chansons. Isabelle Pasquier l'a rencontré chez lui, en Corse, où il prépare un nouvel album.
Un album pour mon anniversaire. J'aurais préféré quelque chose de plus utile, une machine à laver de 12 kilos. Mais je ne vais pas me mettre à pleurer. Non, mais on pourrait être ému. Il faut rester digne.
Il y en a qui contestent.
En Corse, devant une pierre, avec un perfecto que lui a offert Johnny, fidèle à son image, Dutronc enchaîne les cigares et les ironies désabusées. Mais cet hommage le fait craquer.
J'étais content, par exemple, quand Joe Starr fait Lidl. Là, ça me fait marrer.
Je n'en peux plus.
Cali Roussel, là, il a... Gaëtan Roussel, il a fait « Ça nous cache tout », non, c'est ça, hein ? On nous dit rien. Ah non, ça c'est 36-4L. « Je suis un homme responsable, là. » Tout est compatible. Joe Starr n'est pas l'antidote d'Annie Cordy. Annie Cordy me fait marrer, ça représente une certaine jeunesse pour moi.
Étonnant, derrière son humour, Dutronc, le pudique, ne maquille même pas son spleen.
La nostalgie, non. Il y a un peu de déprime ici, je dois avouer. Heureusement que j'ai mes petits amis, là, les chats. J'ai des cordes, hein, pour me pendre, enfin, j'ai tout ce qu'il faut. Non, mais je suis plus dépressif que nostalgique, en tout cas. J'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour l'amitié, moi, plus que pour l'amour. Mais vu les années, la plupart se sont absentés. Enfin, je vis pour eux, je fais comme s'ils étaient encore là. Au lieu de boire un verre, j'en bois 2.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien.
Jacques Dutronc avec Isabelle Pasquier. Tout de suite, la météo de ce mardi avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
La météo avec MGEN, Mutuelle Santé et Prévoyance, la protection sociale de 3 700 000 personnes.
Du vent fort la nuit prochaine jusqu'à 110 km à l'heure sur la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime placée en vigilance orange. Le Jura est également en vigilance orange en raison des fortes pluies encore prévues. Demain, excepté près de la Méditerranée, il sera difficile d'échapper au ciel de pluie. On notera tout de même le retour d'un peu de soleil l'après-midi sur la Bretagne, la Normandie et des Pays de la Loire au bassin parisien. Le vent partout sensible va souffler entre 60 et 80 km à l'heure, 90 près de la Manche et sur les régions de l'Est, localement jusqu'à 110 km à l'heure autour de la Méditerranée et sur la Corse du Sud. Les températures maximales dans les moyennes vont afficher 19 à 22 degrés dans le sud-est, 15 à 17 sur le Lyonnais et près de la Garonne et 12 à 14 dans la moitié nord.